Radio. Campus. Paris.
Absence. L'émission de Radio Campus Paris dédiée à la musique contemporaine.
Moi, je me suis pété les oreilles sur cette impro d'ailleurs.
Une émission où on parle tranquillement d'une musique intranquille.
Radio Campus Paris, la radio de l'amour et du communisme apparemment.
C'est très drôle.
La vie de compositeur de la musique contemporaine est un peu déprimante. Enfin, je veux pas. Enfin, écoutez-en, mais sachez que.
On est comme des gamins dans, dans le grenier de grand-mère.
Quatre siamong dans une cage qui chante une fugue. Bon, à partir de là, voilà, c'était...
Absence, une semaine sur deux, de 21h à 22h sur le 93.9 et disponible en podcast.
Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Absence. Le bed, on l'entend pas trop. Tu peux le monter un peu, parce que je tiens à ma présentation, s'il te plaît. Non, c'est pas grave. Retour du gris à Paris, ma couleur préférée, mais pas mon temps. De temps en temps, j'écoute d'autres radios que Radio Campus Paris, et il y a quelques jours, un problème son résonnait dans l'une d'entre elles. Une pièce de Rachmaninoff était jouée au piano, et avec le problème, on aurait cru entendre un piano préparé. Quelle beauté. Le présentateur s'excuse et dit « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du piano préparé. » Quelle horreur. Et au premier abord, j'étais désespéré. Au deuxième, je me suis dit « C'est bien. » 100 ans après, Cage est toujours un attentat pour les puristes, romantiques, néoclassicistes, conservateurs, réactionnaires. Enfin bref, ce même présentateur enchaînait en discutant avec un compositeur qui écrit comme au 19e siècle « Avec vous, j'aime la musique contemporaine », il dit. « Alléluia les amis, taboulé raisin, j'ai maintenant envie de me pendre ». Bref, j'arrête de vous bassiner avec mes bêtises, mais pour une dernière, et pour aller dans le positif, un ami compositeur qui vit à Paris mais voyage beaucoup m'a parlé d'une anecdote. On lui demande souvent qu'est-ce qui se passe d'intéressant musicalement à Paris, et il répond rien, sauf absence. Notre street cred grandit, les amis. Bienvenue à toutes et à tous. On est un peu nombreuses dans le studio. Salut Lorraine, ça va ?
Coucou, ça va et toi ?
Ouais, ça va. Ma fidèle fantôme, ce qui va me quitter, mais bon, ça c'est une autre histoire.
La trahison.
C'est ça. En parlant de street cred, nous sommes en présence de Guilherme De Almeida.
Ça passe.
Je suis pas connu pour mes très bons accents. Guillaume, effectivement, quand on me parle de toi, justement, je parlais de street cred, on me dit que tu montes des opéras en une semaine, que tu composes très rapidement, que tu as un carnet de contacts digne de la poste et que tu arrives à écrire de la musique avec tes pieds. C'est une anecdote. Mais compositeur brésilien, chanteur aussi. J'ai l'impression que tu te spécialises un peu dans l'opéra, mais ça tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Déjà pas mal connu de la scène, tu enseignes aussi, une grande carrière s'ouvre à toi. Et alors, comment c'est d'être le nouvel espoir?
Ah bon, espoir? Je sais pas, je vais juste vivre ma vie et faire ce qui me plaît, quoi, en respectant les gens. Donc,
Beau programme.
Si ça me permet de vivre confortablement et d'avoir une baignoire chez moi pour prendre un bain par mois... Écologiquement, c'est mieux quand même.
Trop bien.
Je suis très content.
Mais juste un bain par mois.
Et ben, écoutons,
écoutons ta musique. Donc, et après, de toute façon, on va délibérer. On va voir comment on avance tout ça. Et on va commencer par le son The Kraken. Est-ce que tu peux juste nous donner, genre, trois mots en clé d'écoute, un petit peu, pour que nos auditeuristes ne soient pas choqués?
Imagination. Espace et créature magique.
Et bien voilà, The Kraken, donc de Guillaume De Almeida. Oh putain,
non, on s'éloigne.
Sur Radio Campus Paris.
Yeah.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. On écoutait The Kraken, composé en 2025 par le compositeur Guilherme de Almeida. Qui fait partie d'un album qui s'appelle Electronic Creatures. Bienvenue, ça va? Pas trop choqué?
Yes, non, mais j'adore ton accent en anglais. Dickrackhead.
Dickrackhead, Electron Creature.
C'est surtout ton accent brésilien. on peut peut-être commencer un peu chronologiquement, puisque si je ne me trompe pas, tu as commencé tes études à Sao Paulo.
Exactement.
Qu'est-ce que tu pourrais dire de la scène là-bas de musique contemporaine par rapport à ici? Est-ce que tu y retournes des fois pour voir comment ça évolue un peu? Est-ce que ça te manque?
Je crois que ce qui me manque le plus au Brésil, à part la famille, c'est la nature et la nourriture. Je trouve qu'il y a des fruits qui difficilement, ou presque, enfin jamais, j'ai pu retrouver ici à Paris, et qui, enfin, juste le fait d'avoir la sensation de sentir cette texture dans la bouche, etc., et de vivre cette expérience, ça me manque. Et aussi le fait que au Brésil fait beau tout le temps. Et je me rappelle quand je suis arrivé à Paris en 2019, pour la première fois, j'ai vécu l'hiver. Et je m'étais dit, waouh, mais il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Enfin, c'était avec les Covid.
Coup dur.
Et je m'étais dit, mais est-ce que le Covid fait ça avec les arbres, quoi? C'est violent, quoi. Et je me suis mis à écouter tous les quatre saisons, etc. Enfin, voilà. Bref. Ce que je peux dire de la scène à São Paulo, je trouve que c'est très, très, très varié. Il y a énormément de rencontres avec de la musique traditionnelle, de la musique populaire, bossa nova, samba, funk, des manifestations vraiment périphériques qui se rencontrent dans la scène, que c'est quelque chose que je vois un peu moins dans le milieu classique contemporain ici. Et je trouve que cette diversité, elle fait partie, enfin, de toute ma formation là-bas. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai chanté dans le chœur d'opéra là-bas. J'ai donné des cours. J'ai accompagné des chœurs d'opéra aussi au piano. J'ai étudié le piano, le chant, le violoncelle, la flûte traversière aussi. Mais à la base, j'ai voulu être artiste visuel. Donc, c'est quelque chose que je laisse jamais tomber quand j'essaie de faire des choses ici.
Très bien. Et alors, pour revenir à cette composition électronique, The Kraken, The Kraken, ça sent pire de mot en mot. Justement, moi, en écoutant un petit peu cette musique, il y a une approche vraiment musicoplastique, un peu, que je désignerais comme ça, et ce travail de texture un petit peu, ça, on dirait presque de la peinture, etc. Enfin, comment t'as forgé un petit peu cette esthétique? Et est-ce que tu, par exemple, tu es un peu nourri du spectralisme, de tout ce qui se fait un peu dans cette mouvance, ou comment c'est venu un petit peu ce travail de matière, de forme un petit peu?
Je crois que je suis nourri, je dirais pas du spectralisme ou de quelque chose vraiment très 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 fermé, parce que je vois vraiment la composition, l'acte de créer, un peu comme marcher dans la rue. Enfin, on est là et on est baigné par la vie, par les choses qui arrivent. Enfin, il y a un message dans le portable. Après, il faut traverser, donc tu fais attention. Je regarde à gauche, il y a un vélo qui passe. Enfin, il y a tellement de choses que je pense que quand je compose, j'essaye de m'approcher à cette sensation. Et aussi, enfin, j'ai une pratique d'improvisation quand même très forte dans mes études et aussi dans ma vie professionnelle. Et je trouve que le fait d'accepter les choses et d'être à l'écoute de cette collectivité et d'essayer de voir ce que je produis plutôt comme une musique qui m'appartient pas, qu'elle appartient à elle-même, etc. Je pense qu'elle est le plus important. Et particulièrement dans The Kraken, The Kraken.
The Kraken. Allez, on fait un tour de table. Rigolons, on fait un tour de table.
Après, je peux dire aussi en brésilien, The Kraken.
Très bien.
Et ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, c'était simplement, en fait, il y a un instrument, enfin, un outil pour la musique électronique que j'adore utiliser, c'est les Seaboard. Donc, c'est un clavier qui permet à la fois que tu contrôles 5 paramètres avec le toucher. Et c'est aussi un instrument qui, pour moi, c'est une version de Onde Martenot accessible, puisque j'ai étudié l'Onde Martenot aussi avec Nathalie Forger au Conservatoire de Paris, en cours en option. Et j'étais fasciné par tout ça, et je m'étais dit, bon, quand même, je vais pas pouvoir acheter un autre martello là tout de suite. Donc j'ai trouvé cet instrument et je trouve formidable cette relation aussi avec les gestes. Je pense que dans une version hyper concentrée et presque minimale, enfin visuelle au moins, enfin du geste, du contrôle du corps, ça me permet d'avoir vraiment une sensation hyper intéressante. Ouais. Donc pour les Kraken, j'ai enregistré des couches en entendant les choses et en créant des timbres. Et inspiré par cette créature gigantesque et effrayante, mais qui possède un cœur et qui possède ses passions.
Très bien. Et pour les élèves au fond de la classe, les ondes Martenot, c'est une sorte de synthétiseur, un des premiers synthétiseurs qui a été en même temps créé, à peu près en même temps que tout ce qui est Moog avec le Theremin. C'est à la même époque. Et c'est un synthétiseur français, donc je ne sais plus qui, Martenot, qui a inventé ça. Tu dois savoir. Non. Et en fait, c'est une sorte de synthétiseur et où on a une bague au doigt et ça permet de faire des grands glissando, glissandi. Enfin bref, vous aurez compris. Et bien, je propose qu'on enchaîne parce que c'est des courts extraits, donc on va alimenter la discussion de courts extraits musicaux. Et on enchaîne donc avec Sopensava.
Tu veux dire peut-être?
Je peux dire. Donc c'est un titre en portugais brésilien, Sopensava era nele, et ça veut dire je ne pensais qu'à lui. Donc c'est la dernière phrase d'un extrait d'un livre que j'adore. C'est d'un écrivain brésilien, João Guimarães Rosa. C'est un livre formidable auquel j'ai pas réussi à finir de lire. Parce que c'est vraiment très compliqué, c'est un truc qui waouh, c'est impressionnant. Donc ce passage, ça m'a touché et ça décrit une scène de guerre. Et à la fin, il y a quelqu'un qui se rend, qui arrive à s'échapper et qui s'est dit waouh, là maintenant que je peux respirer, que je peux vivre, que je sais que je ne veux pas être tué, je pense à la personne que j'aime.
Très chou. Eh bien, écoutons cela sur Radio Campus Paris, essayons de respirer un peu.
De jagunço comportado ativo para se arrepender no meio de suas jagunçagens, sou de pônio de um chamado Joé Cazuza. Foi em arraso de um tiroteio pra cima do lugar Serra Nova, distrito do Rio Pardo, no Ribeirão Traçadão. A gente fazia uma minoria pequena e fechavam pra riba de nós um pessoal do coronel Adolfino. Forte político, e com muitos soldados fardados no meio seco. Comando do tenente Reis Lema, que depois ficou capitão. Aguentávamos hora mais hora e já dávamos quase que cercados. Aí, de bote, aquele Joé Cazuza, homem muito valente, se ajoelhou, giro no chão do cerrado, levantando os braços que nem o de Jacobá seco, e só gritava, urro claro e urro surdo. Gritava não, espirrava. Ele amou. Nos desigualamos. Trape por meu cavalo que achei. Pulei em mau aceito. Nem sei em que rumo e tempo desatei o cabresto em pé pau. Voei vindo, palavinha, indo, palavinha. O cerrado estrondava. Gente se sai ao inteiro, o medo propositado. Eu podia escoçar feito burro bruto. Pensa no dono. Eu não cabia de estar mais bem escolhido. Baleado veio também o surral que eu tinha nas costas, com poucas minhas coisas e outra de fuzil de ricochete de certo. Esquentou minha roja sem me ferir. O senhor veja, bala faz o que quer.
On est toujours avec le compositeur Guilherme de Almeida sur Radio Campus Paris 93.9. Tu utilises plein de médiums. Tout à l'heure, tu parlais donc du cyborg. Et c'était une pièce électronique. Là, c'est orchestre et ensemble et chanteuse. Est-ce que il y a encore plein d'autres trucs qu'on va l'entendre. Est-ce que l'effectif un peu et le moyen, et aussi en tant que plasticien, est-ce que ça s'impose à toi ce sur quoi tu vas travailler? Enfin, par exemple, tu as un sujet et le médium s'impose à toi, ou est-ce que c'est fruit d'une longue recherche, ou est-ce que c'est un peu au hasard de ce que tu as envie de faire
Déjà, je dois remercier Clara Barbier Serrano, la chanteuse, oui, qui a fait ça, parce que c'est un formidable travail. Enfin, en fait, c'est presque. Enfin, j'avais envie de faire une toccata, quoi, une espèce de vraiment mise à l'épreuve des langues plutôt, à une chanteuse qui ne parlait pas le portugais, brésilien en tout cas.
Il y a mieux que moi.
Bah, wow. Elle a énormément travaillé. Elle a fait on a travaillé beaucoup ensemble, mais elle a fait un travail formidable. Et aussi, on n'a pas vu là, mais sur scène, elle avait tout ça, quoi. C'était Guillaume Bourgogne qui dirigeait. Et je trouve que là, particulièrement, je pense que cette réponse, elle va être très utile pour ce que tu as demandé. Parce que je crois pas écrire quelque chose pour écrire parce que j'ai envie ou parce que ça doit être comme ça. Je crois vraiment à l'occasion. Donc, je vais écrire pour des gens, pour qu'ils sont en face de moi, parce que ce que j'adore, c'est la rencontre humaine. C'est de pouvoir être émerveillé par les autres, d'échanger, de les découvrir, de les mettre en valeur, savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'ils aiment pas, et de les confronter aussi avec des choses, des mondes univers, et traduire d'une certaine façon avec ce que j'ai envie aussi. Et donc là, c'est l'ensemble Next qui a joué. Donc c'est une formation conservatoire de Paris qui met vraiment les musiciennes, les musiciens à l'épreuve de créer des pièces extrêmement dures parfois, d'être en travail direct avec l'ensemble contemporain, à l'IRCAM également. Donc c'est vraiment un cursus professionnalisant. Et c'était la dernière pièce qu'ils allaient jouer. Donc c'était la dernière pièce du programme, du dernier concert qu'ils avaient. Et j'avais envie de tout utiliser, de les mettre ensemble pour qu'ils fêtent ça, quoi. Donc j'avais envie aussi de faire, enfin, c'était presque social aussi pour moi, parce que en plus il me disait on n'a jamais joué ensemble, il n'y avait aucune pièce qui tout le monde était là, et je m'étais dit c'est ça, quoi. Donc il faut faire ça, enfin il faut donner ses cadeaux, enfin si c'est si simple pour moi, je vais juste faire une décision, oui je vais écrire pour tout le monde, voilà, quoi. Donc, sacrée aventure.
Mais justement, tu parles du social et de question de fédérer. Alors, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Et justement, ce rapport de fédération, en même temps de social et d'écriture. Et alors, comment ça se passe, justement, quand tu as cet effectif, quand tu dis « je vais réunir tous ces musiciens et ces musiciennes ». Et alors, au niveau de l'écriture, j'imagine, ton processus, c'est quoi? Tu t'inscris à la table tout seul, ou alors tu divagues dans les couloirs du CNSM, ou je sais pas, tu regardes une série et tu composes en même temps, parce que ça dépend. C'est quoi le processus d'écriture finalement et de composition quand tu pars de ce fait-là?
Je regarde pas de série quand je compose, mais quand je fais les parties séparées, donc ce processus vraiment, qui est vraiment
très chiant.
Ouais, je trouve passionnant, parce que j'adore l'édition. Oui, et je trouve hyper important, parce que c'est les moments, je pense que la plupart des interprètes, enfin, moi, quand j'étais interprète, je regardais pas forcément les conducteurs, et donc, c'est le premier contact et le seul, parfois, qu'on va avoir avec la compositrice ou le compositeur, et j'ai envie de leur donner, Ferrari, quoi. C'est Gérard Pessan qui disait ça. Ancien enseignant. Et en fait, mon processus, je pense que j'ai réfléchi énormément à ce que je veux. Là, il y avait un texte, donc c'était très important aussi de savoir d'abord, pour moi, il fallait qu'on entende la chanteuse. Ça, c'était le plus important. Et donc, aussi, c'était un travail pour moi d'étudier les accents du Brésil. Donc là, j'ai essayé d'étudier les rythmes, la mélodie, ce qu'on peut appeler mélodie, les contours vraiment d'auteur, etc. L'intention, les accents, et même vraiment dans les consonnes et dans les voyelles, comment on utilise dans chaque région. Et j'ai essayé de m'approcher le plus possible de celle qui est utilisée dans les nord du Brésil, nord-est. Et donc j'ai enregistré j'ai demandé à plusieurs amis de lire le texte, et donc j'ai fait une étude, j'ai essayé de transcrire, etc. Donc je pense que pour cette pièce, la première partie, c'était vraiment comprendre la langue d'un point de vue que j'ai jamais pu vraiment comprendre, et je m'étais dit que qu'il fallait que je chante les choses. Mmh. Parce que si j'essaie de chanter, je pense que c'est plus simple de dire à une chanteuse, voilà, enfin, c'est ça que je veux, et donc je peux le faire, je fais. Les gens sont formidables, quoi. Elles sont formées à l'écoute, elles entendent les trucs qu'elles font. Et en plus, pour tout ce qui est instrument, je pense qu'il y avait une mise à l'épreuve pour moi. C'était la première pièce que j'ai écrite au Conservatoire de Paris en tant qu'étudiant en composition. Et pour moi, c'était vraiment, enfin, personne n'a entendu vraiment mes pièces. Mmh. C'est une grande exposition. Ça va être enregistré, un ensemble. Guillaume de Bourgogne, il avait déjà été au Brésil et j'ai écouté et dirigé Pierrot Lunaire. Et donc, en fait, je m'étais dit, waouh, enfin, c'est le chef que j'ai vu, enfin, il y a 15 ans. Pour moi, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à l'épreuve. Donc, j'ai voulu faire un énorme travail. Je suis très content du résultat.
En tout cas, ça se ressent, ça se ressent. Eh ben, enchaînons. Attention.
Pour rappeler
la joie. Et, donc, là, c'est par le Quatuor Hypnos sur Radio Campus Paris. Et à tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus. On vient d'écouter un extrait de Pour appeler la joie. Là, ici, joué par un quatuor de saxophone, Quatuor Hypnos. Guilherme, toi, compositeur. Grande question, petite réponse, petite question, grande réponse. Alors finalement, tu nous as parlé justement de cette pièce juste avant qu'on venait d'écouter pour ta première pièce au CNSM. Et alors, toi, de ton enseignement finalement, parce que j'imagine, en arrivant en France, en arrivant surtout au CNSM, quand même une institution qui est réputée pour pas aplatir, mais assouplir. compositionnellement, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Et comment tu t'es retrouvé dans ce gros bateau? Finalement, c'est vraiment un gros bateau. Dans ta musique et dans ce que tu avais envie de défendre musicalement.
Je pense que, enfin, déjà de base, quand je suis entré au Conservatoire de Paris en 2019, c'était pour étudier l'improvisation. au piano. Okay. Ensuite, j'ai fait toutes les choses que j'ai pu faire, parce que je m'étais dit, il faut vraiment que je profite au maximum. Et c'était pas vraiment juste une question d'aller aux cours différents et de rencontrer les enseignantes et les enseignants. C'était aussi une question de pouvoir apprendre à parler avec l'artiste qui va faire les lumières, à la production, à la chef du plateau, enfin à la direction.
T'as dû payer beaucoup de café, du coup.
Pas du tout. Les gens payent des cafés pour moi. Ils sont très 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 gentils. Mais je trouve je pense, j'ai pas l'impression que ça aplatit quoi que ce soit. Au moins, enfin moi, j'ai cette impression. En plus, ah, ça plaît. Ah oui, cool. mais je trouve vraiment que, enfin, si on parle de cette institution, enfin, en fait, il y a des choses qui sont passées pendant mon séjour ici, en France. Il faut dire que je suis arrivé avec le Covid. Ouais. Donc, si c'était hyper restreignant, enfin, restreignant? Oppressant quand même,
contraignant.
Voilà, merci. Parce que j'habitais dans 18 mètres carrés. J'ai resté vraiment dans ma chambre. J'avais peur. J'ai perdu énormément d'amis au Brésil qui sont morts à cause du Covid. Donc, j'étais touché par ça. C'était une période, enfin, que j'ai énormément composé aussi. Ouais. Même si je faisais pas la composition en ces moments comme cursus. Je trouve que j'ai eu un support de l'institution magnifique, parce que si j'avais pas eu par exemple des bourses d'urgence dans tas d'institutions, j'aurais pas pu rester en France. Mes parents n'ont pas énormément d'argent. Moi, je suis né à côté de la favela, des favelas au Brésil. J'ai commencé la musique dans un projet social. J'avais déjà 18 ans quand j'ai commencé très très tard la musique. Après, quand j'ai fait le conservatoire de São Paulo, j'ai rentré. Enfin, j'étais vraiment en suppléant dans la liste en troisième place. Donc, tous les jours, je me disais, waouh, ok, je vais rentrer pendant 6 mois, quoi. Et le dernier jour, j'ai rentré de la natation, j'ai marché vers chez moi, je disais, ok, si je suis pas appris, c'est pas grave, j'ai tenté après. Et là, c'est mon moment, mon portable sonne. C'est mon papa, il me dit, ils ont appelé et t'es pris, quoi. Je pense que cet engagement avec les institutions, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que, comme j'ai dit, j'adore le contact humain et j'apprends énormément. Et ça me fascine d'apprendre. Enfin, ce que je connais déjà, ça ne m'intéresse pas trop.
Ouais, trop bien. Et justement, en parlant d'institutions, maintenant, tu es prof, si j'ai bien compris.
J'enseigne également, oui.
Ouais, c'est ça.
Oui, oui.
À côté de la Sainte Maison de la Radio.
Oui, mais en fait, j'ai enseigné déjà. Ça fait longtemps que j'enseigne.
C'est un parcours. Enfin, tu fais ça à côté depuis longtemps, c'est
ça. Il fallait payer les loyers déjà à São Paulo. Je voulais pas du tout. Ma maman, elle m'a crié. Elle m'a dit toujours, à partir des 22 ans, il faut être indépendant, quoi. Et moi, j'étais waouh, cool. Et donc, en fait, c'était cette vague, quoi. Donc, vite, j'ai fait des formations pour pouvoir travailler, etc. Et j'ai beaucoup dédié mon temps à l'enseignement dans des projets sociaux, parce que j'ai commencé à faire ça à cause d'un projet social. Et je pense qu'il y a vraiment dans moi une devoir, responsabilité. Enfin, j'appellerais pas ça de la générosité, mais il y a tellement des gens qui sont généreuses envers moi, qui m'aident, qui donnent des conseils, qui disent des choses. Moi, je me rappelle, je venais de rentrer au conservatoire de Paris et je m'étais dit, ok, il faut que je porte des costumes, je sais pas, il y a des gens qui sont hyper riches ici, qu'est-ce que je vais faire. Et en fait, je viens et je parle avec Dieng Fatoumata, qui était responsable des résidences étudiantes. Et c'était formidable, parce qu'elle a dit, ok, tu peux t'habiller comme ça, mais il te faut un fer à repasser. Et elle m'a donné un fer à repasser que j'ai toujours. Il est super. Et elle a dit, d'ailleurs, ma chemise, elle n'est pas repassée là, mais bon.
On est à la radio, donc ça
lui a envoyé un mail.
Donc je pense que cet engagement à l'enseignement, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc, c'était le travail au conservatoire Francis Poulenc, côté de la radio. Et là, je vais être enseignant d'improvisation dans un festival, dans Ulysse Academy, les Chants d'Ulysse, Fest Academy, avec l'ensemble à Marie-Lys cet été. Donc je suis très content, parce que parfois je vais au Brésil pour des festivals, etc., à travers l'improvisation, l'accompagnement du film muet, que j'ai fait énormément à la Fondation Pathé également. Je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je ne veux pas être enseignant en composition, mais enseignant d'improvisation, oui. Pourquoi ?
Pourquoi la composition ? Parce que justement, c'est un peu la grande question, parce que c'est une discipline qui s'apprend et qui s'apprend pas. Enfin, c'est plein de choses en même temps. Enfin, il y a plein d'écoles différentes dans la composition. Et alors, c'est étonnant, justement.
Ben, je trouve que dans les possibilités, il y a tellement de possibilités. J'ai déjà travaillé dans un cabaret. J'ai fait du drag queen. J'ai fait des expositions avec mes tableaux. Je couds aussi. Donc, je fais des vêtements parfois. Et je pense qu'il y a tellement de choses que je veux faire et je vais travailler avec. Et dans ces listes, dans cette longue liste, enfin, je pense que l'enseignement de la composition, elle est très, très, très en bas. Enfin, je pourrais le faire. Mais en vrai, je pense que ça me plaît juste pas le fait de m'imaginer, enfin, au moins dans le format que je connais aujourd'hui. Enfin, dans une salle, t'enchaînes les étudiants, et c'est un cursus à la fois, enfin une formation aussi de guider dans la carrière, d'édition, enfin démontrer l'écriture, etc. Je pense que par exemple, comme enseignant d'improvisation dans un modèle très ouvert et actuel, je serais vraiment plus content. Ouais.
Okay. Et tu disais que t'as commencé la musique donc avec un projet social. Est-ce que c'était directement orienté musique contemporaine? Ou est-ce que tu y es venu plus tard? Et bah, si oui, comment? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé vers cette esthétique-là?
Waouh! Je trouve que au tout début, je connaissais un peu la musique contemporaine. Enfin, non. Au tout début, en vrai, ma maman, elle était virée d'une entreprise qu'elle travaillait parce qu'en fait, l'entreprise, elle a déclaré faillite. Donc, elle n'était pas virée, en fait. L'entreprise a fermé ses portes. Et donc, elle s'est retrouvée, elle a donné des cours d'anglais à côté de chez nous. Donc, elle a dit, bah, c'est mon premier jour, est-ce que tu veux venir, etc. Bah, j'étais hyper jeune. Et il s'avère que ce jour-là, il y avait la fête de la musique dans cette école de langue. Et donc, comme on chantait de la bossa nova, parce que moi, elle chantait tout le temps. Enfin, c'est vrai, enfin, moi aussi, j'adorais les carnavals. Je faisais toujours des allégories en miniature avec des boîtes à pizza, etc. J'ai m'habillé, des trucs. Enfin, j'ai des photos aussi de moi comme bonne personne cuir assumée. J'avais je prenais enfin des serviettes, je faisais des robes de mariée, etc. Enfin, c'est hyper cool. Mais donc dans cette fête de la musique de cette école, on a chanté, etc. Et il y avait une prof qui a dit, eh ben, il y a un projet social à côté et ils ont besoin d'un pianiste. Est-ce que tu peux pas venir? Et je dis oui, je suis formé en piano, en orgue. Enfin, j'aime aussi. Oh là là. C'était horrible, mais j'étais autodidacte à cette époque parce que ma maman elle avait un clavier des 3 octaves et je savais jouer Tchiku Tchiku no Fuba, c'est un morceau brésilien assez connu, c'est très cool. Et donc j'arrivais et ils ont dit ok, bah, est-ce que tu peux jouer du piano pour nous? C'était la première fois que j'ai touché un piano de ma vie, c'était un piano droit. Et je commençais à jouer, il y a un cafard qui saute du truc. Et bon, dans ces projets sociaux, c'était pas du tout focus sur la musique contemporaine. Donc, la première chose qu'on a fait, c'était Carnaval des animaux. Et en fait, il y avait que moi au piano. Ils m'ont dit de jouer une réduction des deux. Donc, en fait, c'est là que j'ai commencé à improviser des coutes. Ah, wow. Et les morceaux les plus durs de pour moi, c'était les pianistes. C'était les gammes. C'est les morceaux les plus techniques. Pour moi, à l'époque, c'était compliqué. C'était hyper dur. Et donc, c'est comme ça. Après, on a fait un spectacle Beatles. Après, on a fait d'autres arrangements, etc. J'ai commencé à faire des cours de violoncelle là-bas. Okay. Et à un moment, ils ont dit, Guilherme, il faut que tu essayes le conservatoire de São Paulo en piano. Et bah voilà, c'est l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure.
Très bien. Eh bien, faisons une courte pause musicale en enchaînant avec la pièce Raga, donc pour danseur buto, totem, couronne et lumière, sur Radio Campus Paris. On se retrouve dans 3 minutes et 39 secondes.
Raga pour danseur buteau, totem, couronne et lumière, c'est-à-dire pour totem, couronne, lumière et...
ce que je trouve intéressant dans la musique électronique, c'est, pour moi c'est comme du cinéma sans écran, et donc il y avait quand même un vide pour moi. D'habiller la scène, etc. C'est déjà impressionnant parce que normalement les dernières concerts d'électronique que j'ai faites, on a énormément d'haut-parleurs, donc des sons qui viennent dans tous les sens. Et il y a cette pièce, donc à l'occasion j'utilise un totem, c'est-à-dire on va empiler 5 haut-parleurs, on va le mettre sur scène et chaque haut-parleur va envoyer le son dans une direction différente. Donc il y a énormément de sons qui arrivent en retard et qui tu entends la réfraction, qui tu entends que c'est des sons qui ont été faits sur le moment, mais qui ils sonnent dans des endroits dans la salle qui on peut pas normalement toucher avec par exemple une couronne d'enceinte vraiment en élévation. Et pour moi aussi, il y avait des moments hyper importants déjà. Les tout débuts de cette pièce, on n'a pas entendu, mais c'est une voix de quelque chose que j'ai imaginé. Enfin, c'est moi qui l'ai fait. Moi, j'ai Octavier, j'ai traité électroniquement. Mais pour moi, c'est une espèce de créature qui va apparaître. Et donc, elle parle genre...
Le roi, je veux meurtre.
Voilà, un truc comme ça. Moi, j'adore utiliser la voix, la parole. En plus, je chante énormément, j'improvise avec la voix. Donc, je m'étais dit, il faut quelque chose... pas mystérieuse, mais qui encourage les gens à ressentir la solitude et l'inquiétude. Donc déjà, la lumière au tout début, c'est vraiment la limite de la pénombre. Donc on se demande qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un truc ou pas, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai fait de l'ASMR là. Et il y avait des moments, là on a entendu, il y avait un passage des Turandot, de l'opéra de Puccini, et donc c'est le premier moment qu'il y a des flashs de lumière turquoise dans la salle, c'est quand elle chante « Sortez là, étranger !» Et donc c'était hyper cool parce que j'étais dans la console, je faisais le mix live et j'ai mis à fond le son et la lumière elle a frappé vraiment et il y avait des gens qui ont crié de peur, j'ai adoré ça. Et la danseur Buteau, c'est récent parce qu'en fait j'ai imposé cette pièce à un danseur Buteau et c'est vraiment une nouvelle, hein. Il y a énormément de choses qui s'y passent et à la fin je me suis dit ben, ça c'est la vérité de la pièce quoi. Il y a cette lenteur, cette histoire, cette profondité, cet univers, c'est du cinéma pour moi à la fin.
Et pour l'instant, dans les deux pièces pour électronique qu'on a écoutées, il y a à chaque fois ce côté un peu terrifiant. Est-ce que pour toi c'est forcément lié à ce médium ? Ou est-ce qu'en tout cas l'électronique c'est le plus capable de faire peur ? Ou est-ce que c'est juste une coïncidence?
Non, je pense que c'était une coïncidence. Okay. Je m'étais dit, enfin, quand j'ai réfléchi, enfin, c'est quoi les morceaux que je veux diffuser, enfin, donc j'imaginais une panel différente parce que je pense que ça me représente. Enfin, je suis cette être qui accepte les choses et qui vit les choses et curieux, etc., et qui essaye de faire les choses vraiment sérieusement. Et par exemple, ma dernière pièce électronique qui a été jouée les mois derniers à Paris. Elle s'appelait Geste Férique. Et donc, en fait, mon idée, elle était juste de réfléchir qu'est-ce que ça serait d'écouter une fée aujourd'hui. Enfin, comment elle sonne une fée aujourd'hui? Et pour moi, c'était vraiment presque du paysage sonore, quelque chose qui était là. Et j'ai eu la chance vraiment de travailler avec des artistes incroyables, des Lumières aussi, qui ont fait des choses incroyables sur scène. Et ça encourageait vraiment l'imagination. Donc, je pense que c'est une coïncidence, mais j'aime okay. beaucoup des choses mignonnes aussi.
Eh ben, enchaînons musicalement. Écoutons Toccatina. Et donc toujours sur Radio Campus avec Guilherme de Almeida. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris avec Guilherme. Grande question, petite question, grande réponse. Alors ton rapport, parce que justement souvent, surtout en France notamment, je sais pas, y a les compositeurs, il y a les improvisateurs, il y a les musiciens, il y a tout, il y a l'opéra, il y a l'orchestre, il y a les ensembles, il y a la musique de chambre, enfin tout est compartimenté et l'improvisation notamment. Et toi, du coup, tu mélanges un peu tout ça. Alors, est-ce que finalement chaque pratique s'alimente les unes entre elles, déjà, première question. Et la deuxième, c'est comment c'est reçu dans ton travail par les ensembles avec lesquels tu travailles, par exemple. L'ensemble intercontemporain ou même d'autres ensembles, comment ils reçoivent ça?
Plusieurs questions. Je trouve que c'est impossible pour moi de vraiment me mettre dans une petite boîte. Enfin, je veux dire, j'ai réduit beaucoup la situation dans une petite phrase, une grande phrase. Et je trouve que tout vient d'un coup, quoi. Par exemple, là, en ce moment, j'écris un opéra, Anne Green, dans le cadre je suis pensionnaire à l'Académie des Beaux-Arts, à la Villa Marmotton. Et donc, mon projet, c'était vraiment, c'est le projet d'écrire le livret, d'imaginer la mise en scène, de faire les décors, les costumes, etc. Parce qu'en vrai, quand je compose tout ça, tout vient avec, quoi. Donc, quand j'écris le livret, j'imagine déjà où les gens vont être placés, comment ça va sonner.
Fais un Stockhausen cool.
Ah, waouh, je sais pas. Mais waouh, c'est la première fois que je suis dans la même phrase que Stockhausen. Je sais pas si c'est une bonne chose.
Je suis pas sûr. Mais t'es cool, hein.
C'est cool. Il y a des trucs cool de Stockhausen, quoi. Mais voilà, enfin, je pense que tout vient avec et je peux pas dire non. Et, mais il y a aussi quelque chose de très important. Je trouve que vraiment être entouré des gens formidables et généreux et qui ont une passion par la création, pour connaître, pour diffuser des choses nouvelles, pour rencontrer des nouvelles gens, de présenter ça à un public qui pas forcément connaît ces milieux, ou cette manifestation sonore, enfin, qu'on promouvoit. Je pense que pour répondre à ta question de comment les ensembles, etc., ils aperçoivent tout ça, je pense que j'ai déjà eu des feedbacks et je trouve que dans la moyenne des feedbacks, ce que j'entends le plus, c'est que je peux m'adapter. Donc, okay. Par exemple, il y a un concert dans une semaine, et c'est ça comme condition, il faut que tu fasses, ou c'est comme ça, ou il n'y a rien. Ouais. Ou sinon, il y a un truc comme ça, on pense à Guilherme, parce que Guilherme peut le faire, ce truc. Je pense que c'est très intéressant, parce que ça me met à l'épreuve. Et j'espère que dans 15 ans, 20 ans, je vais pouvoir choisir les opportunités qui me sont présentées. Parce que j'avoue que ça consomme quand même pas mal de temps de vie. Et parfois, ouais. Ça me manque juste de pouvoir jouer à la PlayStation 5. Ou de pouvoir me promener dans un parc, quoi.
Et tu penses pas justement que ce côté instantané de dire, on te demande quelque chose et tu fournis quelque chose, tu régurgites quelque chose d'un seul coup, ça alimente quelque chose dans la composition. Enfin, tu penses pas que si le processus était inversé, par exemple, si t'avais des mois, 10 ans, 20 ans pour composer un opéra d'une semaine, ce serait différent, ta manière de composer? Parce que moi, j'ai l'impression que souvent, c'est le contexte de la composition qui apporte vraiment quelque chose dans l'écriture et dans ce qu'on veut donner à l'intérieur. Et donc, comment ce contexte, s'il changerait, tu penses que ça changerait beaucoup ta manière, ton rapport à l'écriture?
Je pense que j'ai déjà la réponse et je pense pas que ça change les rapports. Ah ouais. Moi, j'aime beaucoup marcher ou rester chez moi en faisant des petites promenades dans mon petit jardin, mais en réfléchissant aux choses. Et quand je sais vraiment ce que je veux, je m'assois, je les grave sur l'ordinateur, etc. Okay. Et je les fais. Et quand j'ai beaucoup de temps pour réfléchir, en fait, ce qui se passe, c'est que j'échange énormément l'idée. Moi, j'ai énormément d'idées dans ma tête. Et en plus, j'ai vu avec mon copain, et il a énormément d'idées aussi. Tout le temps, il est en train de faire un truc différent, à danser de façon différente, etc. Et je pense que ça contamine, quoi. Ouais. Et donc, parfois, je dis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe avec moi, quoi, dans ma musique? Et je pense que quand j'ai beaucoup de temps, en fait, peut-être je trouve la juste forme, ou parfois j'ai raté des bonnes idées que j'avais avant et que simplement j'accepte que j'ai changé, etc. Et bon, je pense que j'aime beaucoup ces rapports de temps serrés pour faire des choses.
Très bien. Eh bien, enchaînons musicalement. à tout de suite sur Radio Campus Paris.
Des fêtes de Bacchus de Guilherme Almeida. De Almeida.
Yes.
Et on arrive à la fin de l'émission. J'ai juste une dernière question. Tu nous as pas mal parlé de envie de faire une. Enfin, tout à l'heure, tu nous as parlé d'une envie de faire une toccata. Ta pièce précédente, elle s'appelait Toccatina. Il y en a une autre qui s'appelle Toccatina. Est-ce qu'il y a chez toi un besoin ou une envie de retravailler les formes classiques, les formes anciennes, et un peu de les subvertir ou bien de te les approprier? Ou c'est un nom qui t'inspirait pour d'autres raisons?
Ouais, c'est vrai. En plus, je parlais des toccata pour voix pour la première pièce, le premier extrait qu'on avait entendu. Je dois remercier Sotiris Athanasio, le guitariste qui a joué, un grand ami et a fait un travail formidable, un amour de personne. Et je pense que parfois, bon là on parle d'un titre, donc en fait c'est pour moi un des mécanismes les plus importants qu'on écrit de la musique aujourd'hui pour toucher les publics, pour se communiquer avec le public, parce que ça donne énormément des clés d'écoute. Et parfois, ces titres, ils arrivent au tout début, et parfois, je les comprends au fur et à mesure que je compose, et parfois, ils arrivent après parce qu'il y a une forme de reconnaissance tardive qui se présente. Et j'ai eu tendance à penser c'est des toccata, enfin, trucs des machines, parce qu'en fait, ça évoque déjà dans l'esprit, il y a une mise à l'épreuve, il y a une demande technique, c'est toujours aussi assimilé avec quelque chose qui demande du travail, un défi, quoi. J'adore aussi les mots défi. Je pense que le prochain truc que je vais appeler défi. Mais donc, dans ce cas-là, je pense que c'était juste juste pour évoquer, et c'est tocachin, c'est un truc très brésilien, donc c'est une petite toccata, parce que je pense que si j'écris une toccata un jour, ça va être vraiment un truc waouh. Et je pense que le nom, et ça sonne très bien. Et bah voilà quoi, après les titres, la prochaine pièce là que j'écris, je demande au public de choisir son propre titre.
Très bien. Et ben, conclusion, il nous reste 30 secondes, alors nous allons rapidement. Merci Guillaume de Almeida.
Merci beaucoup.
Pour, d'être venu au studio. Merci Lorraine pour ta co-interview.
Merci à toi, merci à vous.
Merci Yacine à la technique.
Merci Yacine.
Notre grand réalisateur, grand ordonnateur. On se retrouve dans 2 semaines. Le programme, bien entendu, je ne l'ai pas. Mais restez à l'écoute sur Radio Campus Paris. Et restez surtout curieux intellectuellement et auditivement. Continuons pendant 3 secondes et rendons l'antenne.
Bisous. RadioCampusParis.org.
Salut Ben, comment ça va? Qu'est-ce que t'écoutes?
Salut Steph. Bon, moi ça va bien. Je viens de découvrir un morceau.